Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Profondément Vivant. Aujourd'hui, avec Hélène, on va parler d'un sujet sensible, d'un sujet qui n'est pas très abordé en société, on a trouvé. Et donc, on trouve ça important d'en parler aujourd'hui. Ce sujet, ça va traiter des décisions psychologiques, des décisions mentales qu'on a prises dans notre vie, tout au long de notre vie, depuis l'enfance. Et la manière dont ces décisions en fait gouvernent notre vie jusqu'à aujourd'hui. Si on n'a pas fait un travail de mise à jour de notre programme intérieur. Et alors, je pense que ce qui sera le plus flagrant, le plus frappant pour les auditeurs, ce sera qu'on donne des anecdotes, moi et toi, Hélène, sur les décisions qu'on a pu prendre. Qu'est-ce qu'elle nous, comment elle nous contrôle aujourd'hui? Qu'est-ce qui, les comportements qu'on a dans nos relations, dans notre business, comment ces décisions-là, en fait, nous impactent? Et c'est tout un travail de vraiment de prise de conscience. Donc, ce podcast Profondément Vivant traite beaucoup de la conscience de soi. C'est un sujet central. Et là, on va y plonger en profondeur. Du coup.
Ben,
Et
bonjour
avant
Thomas.
que,
Pardon.
vas-y, Hélène.
Non, avant, tu voulais dire?
Ben, j'allais dire, avant que je donne un peu plus d'anecdotes sur le sujet, j'allais t'inviter, Hélène, justement, à nous dire ce que tu penses de ce sujet-là.
Ok, merci Thomas. Bonjour à tout le monde. Bienvenue sur cet épisode. Alors, effectivement, tu lances un sujet très intéressant. Je te disais que je l'avais, je pense même jamais entendu, ce sujet, sur les différentes plateformes. Donc je pense que ça va être plein de prises de conscience pour moi aussi au fur et à mesure de cette conversation. Et je dirais que la première chose qui me vient en tête, et je pense qu'il y en a d'autres, mais une des décisions que j'ai pu prendre pour me protéger dans le passé, qui est encore active maintenant, mais que j'aimerais changer, ou du moins un petit peu trouver un équilibre, une balance, c'est plus par rapport aux relations de couple. Où j'ai décidé de faire une croix sur le couple. Il y a un petit moment, suite à de grosses déceptions, et j'en parlais hein, dans un des précédents podcasts, et pour me protéger, parce que entre une hypersensibilité, cette peur de l'abandon, le vouloir faire plaisir, en fait, au point de s'oublier. On a souvent, en fait, abusé de cette gentillesse et je me suis souvent perdue dans les relations et j'ai pas eu le soutien que j'espérais alors que moi, j'avais l'impression de tout donner. Et du coup, ben, comme j'arrivais plus ou j'arrivais pas à trouver, en fait, comment fonctionner pour avoir une relation équilibrée, j'ai fait une croix dessus et je me suis mis corps et âme dans le travail ou dans mes relations amicales. Et au point de m'être dit un jour, bon, bah en fait, ça va très bien si je me remets pas en couple, j'ai 34 ans. Et je me suis dit, est-ce que c'est si grave si en fait on n'a pas de relation de couple? Si on a la famille, les amis, enfin moi j'ai une vie très riche, je m'ennuie pas. Mais c'est vrai que ces derniers temps, ça revient en se disant, on construit quand même quelque chose de différent. Pour moi, quand on est en couple, quand même, il y a d'autres partages. Donc, c'est quelque chose que je vois à impacter, en fait, la personne que je suis maintenant. Et juste avant qu'on commence l'interview, tu me disais que tu avais vu une petite image d'un cœur en cage. Et clairement, c'est ce que j'ai fait. J'ai mis sous scellé, j'ai bloqué. Et je pense que ça m'impacte même peut-être dans mes relations d'une manière générale ou dans mon travail d'une manière générale, parce que quand on coupe un peu ses émotions, c'est se couper également soi-même. Et je pense que l'énergie qu'on peut peut-être un petit peu renvoyer, tout ça impacte également. Et donc là, je dirais que moi, actuellement, c'est pas forcément hop de me mettre sur une application de rencontre et de rencontrer absolument quelqu'un, mais peut-être reprendre confiance en moi. Et je sais pas trop, peut-être que tu me donneras des clés aussi. Mais déjà, comme tu disais, prendre conscience de ces décisions qu'on a pu prendre à un moment donné qui ont été faites pour se protéger. Et du coup, ouais, voilà, pour poser de la conscience, déjà, ça peut être une première étape.
Ouais,
Voilà.
super. Merci pour ce premier exemple de ta vie vulnérable que tu nous donnes. Et je voudrais rajouter que du coup, on se protège, ça ressemble à une prison qu'on met autour du cœur, mais c'est pas négatif. C'est ni positif ni négatif. C'est quelque chose qui est utile à un moment donné, sur une certaine période de temps, pour soi, peut-être pour toute la vie si on le décide, si on a, mais c'est bien. Je pense pas qu'il y ait une décision qu'on peut se dire, ça sera pour toute la vie. On peut se le dire pour se dire, ouais, je m'en fous, jamais. Mais en général, à certains niveaux de vie, on refait une petite mise à jour, une introspection, et puis on se demande si on a envie de garder cette décision ou pas.
Ça me
Mais
fait penser à...
vas-y.
Mais juste pour rebondir vite fait là-dessus, une fois j'avais fait une séance d'hypnose et il y a une personne, la personne me disait qu'en fait, on se protège, on met une armure. Et en fait, au bout d'un moment, ça peut devenir inconfortable. Mais cette armure, elle nous a protégés des attaques à un moment donné, ces périodes comme si on traversait des hivers. Et en fait, au bout d'un moment, on a juste envie d'enlever cette armure. Et cette image, je la trouve très parlante. Voilà.
C'est ça. Soit on l'enlève consciemment, soit elle se brise parce qu'on a un accident, il y en a quelque chose de vraiment dur qui arrive et qui on n'a plus le choix que de la briser. Ça m'est arrivé aussi, j'en parlerai. Et ouais, c'est vraiment rappeler aussi que la décision qu'on peut prendre, si on se rend compte qu'on a une prison, une enceinte de protection, je vais appeler ça comme ça peut être une prison, mais on peut aussi la voir comme un cocon. Et donc,
Oui, ça dépend des mots que tu mets dessus et comment tu le conscientises, mais en soi, ça c'est une protection, ouais. À moins, après, ça peut se transformer en prison. Si on reste dedans et que c'est inconfortable et qu'on veut pas en sortir, mais que ça nous rend malheureux, là, je pense que ça tourne en prison, ouais.
Exactement. En fait, c'est toute une question de temps. À quel moment, à un moment, ça peut être positif, à un moment ça peut devenir négatif pour soi-même en fait, pour ses objectifs de vie personnels, ce qu'on veut créer, comment on veut se sentir, la personne qu'on veut devenir. Donc la décision qu'on peut prendre, c'est soit oui, ça c'est encore un cocon pour moi, je suis très bien dedans et ça m'empêche en rien d'évoluer et d'avoir ce que je veux. Donc je garde cette décision-là, même si je l'ai prise il y a 10 ans, mais elle est toujours valide aujourd'hui, je suis content, content, contente avec ça. Ou et ben on se rend compte que ça nous bloque, comme tu dis, ça nous limite, on se sent pas bien, on est inconfortable maintenant dedans parce qu'on se dit on veut passer à autre chose. Et donc
Ouais.
voilà.
Et toi, tu disais, tu as des exemples du coup pour
Ouais,
toi?
j'allais y venir là justement.
Ouais.
La plus grosse protection que je me suis mise, c'était pareil au niveau du couple. Je pense que ça reviendra chez beaucoup de personnes. On a tous des cœurs brisés, je pense, dans sa vie. Et donc, moi, c'était vraiment ça. On va commencer dès la naissance. En fait, la naissance, c'est le premier traumatisme de séparation. Tu sors du ventre de ta mère où tu étais bien confortable, chaud, tu étais amoureux, tu étais connecté complètement. Et là, tu sors, il y a une séparation. Tu n'es plus en contact avec ta maman. Donc, ça, c'est la première. Ensuite, moi, à 3 mois, ma mère elle a eu juste 3 mois de congé maternité, puis elle est retournée travailler. Donc, elle m'a laissé chez ma grand-mère toutes les semaines. Et ça, c'était le renforcement du trauma de séparation. Il me dit, là, je peux plus être avec ma mère. Pour un enfant, c'est très difficile, ça. Et ensuite, au cours de mon enfance et de mon adolescence, il y a eu des rappels de ça. Déjà, j'avais pris une décision en étant enfant. Je vais pas me trouver de copine. Moi, si je me trouve une copine, ça sera la bonne jusqu'à la fin. Je veux pas quelqu'un et
D'accord.
ensuite on départ et là, là, là. En fait, j'avais trop peur de la séparation, donc je me suis
Wow.
jamais mis. J'avais des petites. Quand j'étais vraiment petit enfant, pas ado, mais petit enfant, j'avais une fille à l'école qui était bisous bisous.
Amoureuse,
Mais moi, j'évitais. Je voulais pas du tout.
ouais.
Donc déjà, même tout jeune, j'avais pris cette décision que non, je veux pas être en couple. Et jusqu'à 18 ans, j'ai pas eu de copine. Et donc ça, c'était ma première protection. À 18 ans, cette protection-là, je me suis dit, bon, c'est bon. J'ai commencé à apercevoir le fait que ça peut me bloquer pendant longtemps, que je ne trouverais pas forcément la bonne femme tout de suite. Donc je me suis dit, eh ben, il y a des filles qui me plaisent, je vais tenter, je vais passer du temps avec elles et puis on va voir. Donc, je me suis mis en couple à 18 ans. Et au bout d'un an de cette première relation, qui était fantastique, parce que j'avais jamais vraiment vécu ça, au bout d'un an, cette fille, elle me dit, je veux qu'on arrête, puis elle quitte, comme ça,
La
du jour au lendemain, sans que je le vois
confirme
venir.
ta blessure, du coup.
Ouais. Elle confirme ma blessure, et moi, en même temps, inconsciemment, j'ai amené ça, parce que ce qu'on fait souvent, quand on a des blessures profondes et qu'on n'en a pas vraiment conscience, on va chercher des gens qui vont confirmer le fait que le monde est dur et qu'on va être blessé ou qu'on est des victimes. Et donc, au bout d'un an de relation, elle me dit je quitte. Bon, elle casse, enfin, elle part. Là, pendant 3 semaines, j'arrivais pas à dormir. Je pleurais, j'ai beaucoup pleuré. Et après, je me suis dit, c'est bien, ça me laisse de l'espace, je vais rencontrer d'autres personnes. J'avais déménagé dans une autre grande ville, à l'université, donc je me suis dit, c'est top, il y a plein de filles, ça va être bien. Mais un mois plus tard, on se retrouve avec mon ex, du coup, à l'anniversaire d'un ami commun. Et elle me dit qu'elle a fait une erreur, elle veut se remettre ensemble. Puis moi, j'étais encore un peu amoureux, enfin, j'étais amoureux. Et donc, j'y suis retourné. Et là, j'ai pris la décision, elle est là. La plus grosse décision qui m'a vraiment protégé à la base et enfermé ensuite, c'était bah, si elle part, ça me fera pas mal. En fait, j'ai tout rationalisé en mode. Si jamais elle me trompe, je m'en fous. Si elle part, je m'en fous. Et en fait, je me suis désensibilisé. Je me suis créé, c'est un peu des mantras que je me lançais. C'est des mantras opposés qui font pas un effet super.
Parce que du coup, ça devait se ressentir dans votre relation. Si tu coupes ces sentiments d'amour ou de... Je sais pas
Ouais.
si c'est vraiment de l'amour, mais est-ce qu'elle, elle te l'a dit à un moment donné qu'elle sentait que tu étais différent ou qu'il manquait quelque chose ou pas spécialement?
Non, on n'avait pas trop de communication sous la surface aussi. Et on était jeunes et donc cette année-là où on s'est remis ensemble, on était encore dans la même ville, mais ensuite pendant 5 ans, on était encore ensemble pendant 5 ans, mais on était dans des villes séparées, donc on se voyait qu'une fois par mois ou une fois tous les 2 mois. Et puis c'était juste pour moi et elle, c'était agréable, c'était confortable d'avoir une relation, de se voir de temps en temps, d'avoir une relation sexuelle et puis quelqu'un comme ça en couple, quoi. Mais moi toujours, bah, j'avais cette protection, cette décision que j'ai prise qui me... Et du coup, au bout de 5 ans, elle m'a dit, bon, écoute, je pense qu'on va nulle part, je sens pas trop de choses entre nous, donc on peut arrêter. Puis à ce moment-là, ça m'a rien fait. J'étais
Bah, tu t'étais préparé à ce
oui.
moment-là.
Ouais. J'étais oui, je suis d'accord. Et puis on peut arrêter. J'étais content d'arrêter aussi. Je pense que j'avais aussi peur. Enfin, j'avais pas envie d'arrêter quelque chose qui semblait être bien. Sans. Enfin, j'avais pas de standard, tu vois, énorme pour mon couple. Donc je me suis jamais dit ah, il faut arrêter parce que ça me bloque le couple. Mais du coup, la décision que j'avais prise, que si elle part, ça ne me fera rien, du coup, ça a fait son effet, ça ne m'a pas reblessé derrière. Mais je me suis retrouvé tout seul et la décision était encore en place. En fait, tout ça, cette armure d'hyper-rationalité que je me suis construite pour me protéger, ça, c'est devenu inconscient, c'était dans mon corps après. Et je ne pouvais plus, aller le repêcher pour l'enlever en fait, le débloquer, c'était tout dans mes cellules, dans mes os, dans mon, enfin c'était imprégné pendant 6 ans, j'ai eu ça quoi. Et c'est vraiment que tu disais l'armure, ben je le décrivais comme ça aussi, c'était une grosse armure très épaisse. Et le problème avec une armure, c'est que oui, ça bloque les attaques extérieures, mais ça empêche aussi l'amour, la joie, le cœur, la créativité, l'inspiration, toute cette ébullition qui est à l'intérieur de soi, ça l'empêche de s'exprimer. Elle peut plus sortir. L'armure bloque aussi de l'intérieur. Et donc, après qu'on se soit quitté, ben, je me suis dit, top, je vais pouvoir trouver d'autres personnes. J'avais pas vraiment de deuil à faire parce que et j'ai pas fait de deuil de cette relation.
C'est jamais
Je pense que
revenu même plus
le deuil avait été fait dans le passé déjà.
tard. Ok.
Et donc là, pendant 5 ans, c'était plus une relation. Il y avait moins de d'attachement émotionnel. Il y avait pas d'attachement émotionnel. C'était ça en fait. C'était j'ai ma protection, ma décision, c'était plus d'attachement. Et je l'ai. J'ai utilisé cette décision-là aussi pour d'autres aspects de ma vie, pour les amis, pour ma famille, mes parents, ma sœur, pour éviter d'être blessé dans tous les domaines. Et du coup, je suis devenu quelqu'un qui était jamais en colère, jamais triste, jamais apeuré, jamais stressé par quoi que ce soit. Si un ami veut pas ou veut plus me parler, bah c'est très bien, tant mieux. Je suis pas attaché, je suis attaché à rien. Et je pense,
D'un
en
point de
fait.
vue extérieur, je pense qu'il y a des gens qui pourraient dire c'est bien. Je sais que moi, j'ai essayé de l'atteindre ce niveau en me disant je suis épuisée de mes émotions qui partent dans tous les sens. J'ai cherché à être lisse. Et en fait, quand ça arrive, bon, toi, ça a été depuis très jeune, donc je sais pas si tu t'en rendais compte. Enfin, ça devait être naturel peut-être. Mais moi, quand ça arrivait, je me suis dit, mais j'ai l'impression, c'est pas comme si on était mort à l'intérieur, mais du coup, il n'y a plus rien qui nous fait kiffer non plus. Parce qu'à l'inverse, comme tu disais, les attaques ne rentrent pas, mais du coup, chaque événement n'est pas là en train de. Enfin, les émotions positives ne font pas vibrer non plus. Là, je me suis dit, ok, en fait, la vie, elle peut pas être comme ça. C'est reposant, et moi, il me l'a fallu un temps, mais c'est pas fun, du coup. Donc,
Et
c'était clair.
comment t'as fait pour repartir dans les couleurs et les émotions? T'as juste pris une décision?
Bonne question. Non, j'ai fait un gros travail sur moi. Alors, il y a deux fois où j'ai eu le sentiment là. C'est une fois, j'avais testé les fleurs de Bac. Et c'est en arrêtant les fleurs de Bac que que mes émotions sont revenues et que j'ai pris conscience qu'en fait, les fleurs m'avaient lissé mes émotions et mon tempérament. Sur le coup, je m'en rendais pas compte. Et je me suis dit, ok, ça fait du bien, mais c'est très bizarre. Et la seconde fois, bah, c'était justement après donc le décès de mon grand-père et ma séparation, où je me suis retrouvée sans soutien et complètement seule, où j'ai développé donc les crises d'angoisse et tout ça. Et au bout d'un moment, donc mon cerveau qui a bloqué, on en parlait toi et moi l'année dernière je faisais des séances avec toi, où justement j'ai l'impression qu'il y a tout qui était verrouillé et même les activités qui me faisaient plaisir ne me procurent plus spécialement d'émotions. Je fais des choses ou je fais des activités parce que je sais pas, c'est une habitude et parce que j'ai peur de, je sais pas, de me renfermer, je pense, dans un sens. Donc j'ai continué ces activités. Je suis toujours dans cette quête. Je sens que mes émotions ne sont plus les mêmes comparées encore à avant. Et pour retrouver un peu ces couleurs, bah, je dirais que clairement les thérapies, de chercher au fond de soi. Tout ce qu'on est en train de faire là, tout ce qu'on propose, clairement de poser de la conscience sur ce qu'on a pu vivre dans nos vies, dans notre vie, les actions qu'on a prises, clairement, c'est creuser au fond de soi et voir en fait peut-être comment on peut faire différemment dans le futur, parce qu'il y a beaucoup cette peur du futur, je parle pour moi, je pense que c'est ça aussi de se protéger. Mais clairement, ça demande en fait de se bouger, quoi.
Ouais. Mais c'est j'aime bien quand tu as fait le geste plat, parce que c'est vraiment ce que je définissais aussi, c'est le plateau de la. C'est il y a plus d'émotion, c'est tout plat. En fait, on n'est plus blessé, mais on n'est plus on va ni en haut ni en bas. Alors que la vie, c'est le mouvement, c'est les vagues et il y a la possibilité d'atteindre, je pense, un état équilibré. Je le pense pas, je l'ai expérimenté aussi. En fait, je suis passé par là. En fait, quand cet état d'apathie, il s'est brisé, mais j'en parlerai de manière brutale à 25 ans. Après ça, j'étais dans le chaos des émotions. C'était un volcan déchaîné. Il n'y avait pas de structure, il n'y avait que de l'énergie. Et ces 5 dernières années, c'était ce travail de structurer ça et de retrouver un équilibre, mais qui n'est pas soustrayant. Il ne va pas soustraire les énergies. Je ne vais pas bloquer, en fait. Il n'est pas bloquant, l'équilibre. Avant, en fait, la manière la plus simple de trouver un équilibre émotionnel, c'est de bloquer les émotions négatives, positives, et puis de rester à un niveau d'émotion neutre tout le temps. Là, en fait, on a tout, le spectre, mais au lieu d'être un point qui va naviguer dans les vagues et qui va se faire chavirer tout le temps, on va, en fait, ce point-là, on va l'élargir, et en fait, il va englober tout le spectre des émotions. En fait, on va avoir une conscience élargie. C'est ça, en fait, le travail de développement de la conscience, c'est élargir sa conscience pour pouvoir accepter le négatif et le positif à différents moments, en ayant toujours ce point central. En fait, on n'est pas ce petit point qui quitte le point central d'ancrage qui va dans le négatif ou dans le positif, mais on est ce gros point dont le point central fait partie et le positif et le négatif fait partie aussi. Peut-être qu'on va des fois un peu plus en haut, donc on a un ancrage toujours dans le neutre pour éviter l'euphorie qui nous détache, qui nous désancre de la réalité. Et des fois on descend un peu, mais on a toujours le point d'ancrage en haut, comme ça quand on est dans les émotions négatives, on a toujours quelque chose qui est stable. En fait, c'est juste une présence stable en soi. C'est comme, j'aime bien l'image du grand manoir avec le maître de maison et toutes les personnes qui y travaillent ou qui y vivent. Si on est un petit point, il n'y a pas de maître de maison. En fait, tout le monde est un peu chaotique, fait ce qu'il veut. Et des fois, on va s'identifier avec la personne dans le manoir qui est dans la cave et qui est en dépression. Des fois, on va s'identifier avec l'enfant joyeux qui est dans la salle de jeu. Et on va bouger comme ça. Sauf que si on développe un maître dans le manoir, quelqu'un qui gère vraiment les choses, qui est la structure solide au milieu des vagues, ce maître-là, en fait, on va savoir qu'il est toujours en nous et on peut toujours s'y référer. Quand on se sent déprimé, qu'on est dans la cave, on sait que là, il y a le maître qui est à côté aussi. On est les deux en même temps. On a différentes parties en nous. On a des parties qui vont être déprimées, qui vont se sentir comme des victimes, mais on a aussi cette partie centrale qui ne peut pas être déstabilisée, en fait. Qui a plus de sagesse, qui a plus de connaissances, plus d'expérience, plus de. Et cette partie-là, en fait, on peut se la développer. C'est ça le travail que j'ai fait. Ce qui permet d'éviter de barricader les portes du manoir en disant non, là, je veux plus voir cette dépression-là, je cache la porte. C'est plus un maître qui est dans la compassion, dans l'acceptation de tout le monde, toutes les parties du manoir, des gens qui sont là. On va toutes les accepter. Parce que si on en refuse une, on barricade une porte, ben, cette partie-là, on ne sait pas ce qu'elle va fabriquer derrière la porte dans le noir pendant 10 ans. Des fois, ça sort comme un cancer, ça sort comme je sais pas quoi, une manifestation ou des crises de colère qui reviennent d'un coup, ce qui m'est arrivé aussi. Donc c'est pour ça que c'est important de faire ce travail de voir ce qu'il y a derrière les portes, voir pourquoi on a fermé certaines portes, est-ce qu'on est prêt à les réouvrir, à voir ce qu'il y a derrière. Si on entend que s'il y a un gros monstre et qu'on n'est pas trop prêt, bah, comme tu disais, la thérapie, avoir quelqu'un qui nous guide. C'est super utile. Tu ouvres la porte et t'envoies ton monstre vers l'autre personne. Et la
Oui,
personne
c'est
a
vrai.
les pour gérer ce monstre-là,
Ouais,
normalement.
ça peut être intéressant parce que je me rappelle, j'avais découvert, est-ce que c'est le EFT où on fait des, on tape comme ça. Et en
Oui.
fait, c'est ça, c'est l'EFT,
EFT, ouais.
Ok. Alors, les personnes qui nous écoutent, vous pouvez aller voir sur YouTube. Moi, j'avais bien aimé. Donc, ça peut être pour différents moments de la vie. Par exemple, j'ai peur en voiture. Donc, en fait, c'est des petits points qu'on va venir stimuler et se répéter en fait des choses. Et j'avais voulu entamer un processus seul sur la guérison de l'enfant intérieur. J'y arrivais. Et c'était un programme sur plusieurs semaines. Et j'avais dû arrêter parce que ça me faisait remonter trop de choses. Et là, donc effectivement, ça peut être bien des fois d'avoir un accompagnement et une personne en face à qui on peut parler, pas que des vidéos YouTube, parce que ça peut faire remonter des choses qu'on n'arrive pas à gérer. Et moi, j'en ai fait des cauchemars et des machins parce qu'il fallait revoir la petite Hélène quand elle était pas bien, toute jeune et tout. Et en fait, non, voilà, j'ai arrêté et je préfère, voilà, avoir quelqu'un à qui je peux exprimer mes émotions en face et qui justement va prendre le monstre. On va tous prendre la main dans la main et puis avancer ensemble, quoi. Donc, je pense qu'il faut analyser et écouter ses ressentis. Il faut pas se dire, ok, je veux changer de vie, c'est bien, j'en ai marre, je démonte la porte, je prends les monstres à bras le corps. Ça peut faire de la casse et ça peut être difficile. Je comprends des fois qu'on a envie de le faire seul, mais écoutez-vous, si c'est difficile et que ça fait remonter trop de choses, n'hésitez pas à demander de l'aide. C'est une preuve de courage.
Ouais. En fait, de demander de l'aide, ça prouve qu'on prend la responsabilité pour soi. C'est pas qu'on donne sa responsabilité à quelqu'un d'autre. Justement, demander de l'aide, c'est nous qui prenons la décision d'appeler quelqu'un, de prendre un rendez-vous, d'aller voir. Et il y a beaucoup de pouvoir dans l'acte de demander de l'aide, en fait. Plus de pouvoir et de courage, comme tu dis, que dans l'acte de se dire je vais tout faire moi-même.
Ou d'ignorer, de mettre sous le tapis.
Ouais.
Et souvent, on voit ça à l'inverse, justement, que c'est une preuve de faiblesse de demander de l'aide, alors que pas du tout. Il faut une sacrée dose de courage, donc n'hésitez pas. Et tout le monde, hein. Enfin, moi, depuis que j'en parle autour de moi, que j'ai fait des thérapies et tout ça de ces dernières années, les gens en parlent et on est très nombreux à en faire, donc c'est vraiment.
Ça devient de plus en plus accepté, donc c'est assez une bonne chose. Et je voudrais partager un livre que j'ai lu qui est très très bien sur le sujet des parties intérieures. Le livre, bon, je l'ai lu en anglais. Il s'appelle No Bad Part. Donc il n'y a pas de mauvaise partie. Et ça invite vraiment les gens à accepter, comme on dit, s'il y a quelqu'un derrière une porte qu'on a barricadée parce qu'on n'avait pas envie de le revoir ressurgir, une partie de nous qui a très très peur de la séparation, qui est très triste, ou qui était très en colère, un adolescent en colère en nous. Et qu'on a barricadé un moment parce qu'on s'est dit non, non, c'est trop destructif, les gens nous aiment pas quand on est en colère, donc toi tu restes là-bas dans le cajot, dans le placard à balai, tu sors plus, comme ça les gens à l'extérieur ils nous aiment bien. Eh bien, toutes ces parties-là, il y en a aucune de mauvaise, et en fait en se rendant compte de ça, en prenant du recul et de la compassion pour soi-même, on peut petit à petit ouvrir les portes, récupérer des parties de soi qui sont des parties qui renferment notre pouvoir créatif, notre vitalité profonde. Donc là, on parle de profondément vivant. C'est ça, pour moi, c'est recollecter toutes les parties de soi et devenir complet. Moi, mon site internet, il s'appelle Becoming O. C'est ma marque pour le développement de la conscience. Et ça veut dire devenir O, devenir complet, devenir un cercle. Et voilà, c'est ça que je mettrai le nom du livre en français, je le trouverai, je le mettrai dans la description. Si certaines personnes sont intéressées, c'est un premier pas vraiment pour la découverte de soi et le développement de la conscience et se retrouver sa plénitude, sa vitalité.
Mais justement, s'il y a des auditeurs qui ont des livres, des documentaires ou des ressources, qu'importe la ressource à partager, mettez-les en commentaire. Ça aidera toujours, même nous, si on peut découvrir de nouveaux ouvrages.
Ouais, on essaye de s'entraider dans la communauté de la conscience, du développement personnel. Et je voulais aller un peu plus loin, décrire un peu comment cette décision qui me protégeait s'est brusquement dissoute quand j'avais 25 ans. Parce que justement, quand je me suis séparé avec ma première copine qui était mon ex, pendant 6 mois, je me suis dit, je vais repartir, je vais rencontrer quelqu'un, ça va être très bien. Mais j'avais toujours ce blocage. J'étais un peu revenu comme dans l'enfance où je me suis dit, non, non, je ne veux pas avoir de copine. Et j'étais revenu dans ce truc-là, mais pas consciemment. En fait, j'avais pas repris la décision. La décision était encore active en moi. Et ce qui m'a débloqué, c'est j'ai trouvé quelqu'un, un ami que j'ai rencontré peut-être 2 semaines après être séparé avec cette fille. Et c'était un gars qui a commencé à vouloir à me poser des questions un peu plus. Au départ, on parlait beaucoup philosophie, donc j'aimais bien parler philosophie à l'époque aussi, de la vie en général, du sens de la vie, mais je parlais jamais de moi, de mes émotions, de mon passé, de mon histoire, de mes traumatismes, de ce dont j'ai honte ou de ce dont je suis fier, peu importe. Je parlais jamais de moi. Et ce gars-là, il commençait à. Lui, il avait plus l'habitude de ça, peut-être qu'avec sa mère ou avec des personnes. Il avait plus l'habitude d'avoir ces conversations-là, de parler de lui, de faire des thérapies aussi, voir une énergéticienne. Il était plus là-dedans. Moi, j'étais pas du tout spiritualité à l'époque et développement personnel. Et il m'a du coup poussé dans mes retranchements où j'évitais d'aller chercher dans des souvenirs, dans les décisions que j'ai prises. J'évitais de m'analyser intérieurement. Et lui, il me posait des questions qui me forçaient à ça. Et au bout de 6 mois, donc on se voyait pas tous les jours non plus, mais on se voyait régulièrement toutes les semaines. On faisait des événements ensemble, des apéros. Et puis au bout de 6 mois, j'étais dans un café avec lui. Il y avait plein de monde autour, et je commence à parler de ma sœur et de ma famille. Et là, je fonds en larmes. Et pendant 15 minutes, j'ai pleuré dans le café. Il y avait du monde autour et je pleure jamais en public en général. Et là, je pouvais pas le contrôler. Et à ce moment-là, en fait, je lui ai dit à mon ami, c'est marrant parce que j'avais pas pleuré depuis 7 ans. En fait, le moment où ma copine, on s'était remis ensemble avec mon ex, j'ai pas pleuré. En fait, toute
D'accord.
cette protection du cœur m'a aussi protégé. Et comme je t'avais dit, j'étais plus triste. Et là, j'ai pleuré. Mais quand j'étais en train de pleurer, je me sentais tellement bien que, en fait, mon mental, il était pas assez fort. Il y avait plus de mental. Il y avait une partie de moi qui aimait trop la sensation que j'avais en pleurant. Et la partie de moi qui se disait, oh non, il y a des gens autour, faut que t'arrêtes, c'est pas top. Elle était plus assez forte. Donc, c'est pour
Un
ça que
bel
c'était pendant
barrage cassé,
15
quoi.
minutes. Ouais, comme un gros barrage qui a cédé d'un coup. Enfin, pas d'un coup, parce que justement, je pense que c'était une grosse ouverture, et on peut pas arrêter l'eau, même s'il y a une grosse ouverture, il y a trop de pression, donc je peux. En 15 minutes, j'ai pleuré. Et après, pendant les jours qui suivaient, je pleurais assez régulièrement. Je discutais toujours avec ce gars-là, et je disais un truc, je pleurais, donc c'était un genre de thérapie avec un ami. Et au bout d'un mois plus tard, un mois après cet événement-là, j'ai eu le plus gros événement qui m'a complètement. Là, c'est tout le barrage qui a cédé. Et je l'ai décrit dans un article de blog un peu en détail. Là, aujourd'hui, je ne vais peut-être pas donner tous les détails, mais.
Tu pourras mettre le lien de l'article si tu veux.
Ouais, voilà. Si des gens veulent avoir plus de détails sur cet événement.
Pense que je l'ai lu, celui que tu dis.
Ouais. En fait, c'était un week-end d'adieu de cette amie et d'une autre amie que je m'étais faite cette année-là aussi, qui partaient tous les deux dans leur pays d'origine. Ils étaient là en échange Erasmus et ils partaient. Et c'était un week-end d'adieu. Et du coup, adieu dit séparation. Et donc, ça revenait. Mais cette fois-là, comme j'avais appris à pleurer, pleurer, parce que ça me faisait tellement du bien, je libérais des choses en pleurant pendant le mois qui passait. Là, je leur ai dit à tous les deux en même temps, je suis triste que vous partez. J'ai mis des mots dessus. Et juste en disant les mots, là, je suis retombé dans des pleurs d'un coup. Je suis allé me cacher un peu parce qu'il y avait un ami et les parents d'un ami, donc je suis pas resté en face de tout le monde. Mais il y avait mes deux amis là qui étaient venus me rejoindre parce qu'ils ont vu que j'étais parti en pleurs. Et les pleurs se sont accentués de plus en plus. Là, c'était un moment, j'étais dans une chambre avec eux deux. Il n'y avait rien qui me jugeait. Donc, j'étais dans un moment où je me suis dit, bah là, je laisse partir. Les pleurs sont montés. En fait, ça montait en intensité pendant 30 minutes. L'intensité ne faisait que monter. J'avais des vibrations dans les doigts, dans les dents, et des grandes vibrations, et comme une énergie, en fait, qui venait du bas, du ventre, et qui montait, et qui s'arrêtait jamais. Et je l'écris un peu dans l'article que j'ai ressenti, c'était comme un orgasme infini. Donc là, je vois cette expérience-là comme vraiment une expérience extatique qui, l'image du barrage est très parlante, c'est ça que j'utilise beaucoup. C'était tout bloqué au fond de moi, c'est un barrage en fait, c'est inverse à la gravité. L'eau, elle est en bas, puis le barrage s'est cassé, elle est remontée vers le haut, et c'est pour ça qu'il y a les larmes et tout ça. Et donc, cet événement-là, après ça, ça m'a ouvert, j'ai l'impression, des canaux énergétiques, et ça m'a donné envie de me découvrir moi-même, parce que je décris un peu dans l'article, j'ai eu des sensations un peu paranormales que je ne pouvais pas expliquer, soit par la science, soit par la rationalité. Je me suis retrouvé paralysé à un moment, après ces 30 minutes, et je ressentais des énergies dans mes mains. Quand j'avais mes mains à 20 cm d'écart et que je bougeais un doigt d'un côté, je sentais mon doigt qui grattait ma main de l'autre côté. Et ça, c'était pendant cet événement, c'était très très fort. Et les jours suivants, en fait, je m'amusais à essayer de répliquer ça, parce que c'était un jeu. Au bout d'un moment, je faisais ça, je me concentrais, je sentais vraiment l'énergie entre mes mains. Et je faisais ça et ça me grattait là. Et après quelques semaines et quelques mois qui passaient, j'arrivais plus à le faire. Donc je pense que c'est ce que j'ai décrit. Toute la structure a cassé. Il y avait une énergie chaotique qui était là, qui voulait s'évacuer, bouger de partout parce que je l'ai trop contrainte pendant des années. Et cette énergie chaotique, en fait, avec le temps, ça se calme. C'est comme, tu sais, quand tu fais des vagues sous l'eau. Tu vois plus le fond de l'eau. S'il y a du sable au fond, c'est tout vaseux. Mais si tu arrêtes de bouger pendant un moment, bah ça s'éclaircit et tu commences à revoir un peu le fond. C'est un peu ce qui s'est passé. Et voilà, c'est pour ça que je dis des fois c'est brutal parce que je l'ai pas vu venir, j'ai pas fait un travail conscient sur moi-même pour me dire ah, il faut que je libère des choses, j'ai pas assez de vitalité, tout ça. En fait, j'ai commencé à me dire ça avec les questions de mon ami dont j'ai parlé, qui me posait des questions un peu plus personnelles. J'ai commencé à me dire, ah ouais, peut-être qu'il a raison, peut-être que je pourrais être un peu plus joyeux. Je crois que des fois, il me disait vraiment des trucs qui faisaient pas plaisir, genre, pourquoi t'es jamais joyeux, ou je sais pas, des choses comme ça. Et donc, ça met aussi en perspective le fait que d'avoir des personnes qu'on peut considérer négatives dans sa vie, ça peut être positif. Parce que j'aurais pu lui dire, me dire non, il me saoule, il me pousse trop, il respecte pas mes limites, du coup j'arrête de le voir. Mais en fait, si j'avais fait ça, j'aurais pas vécu ça, je me serais pas libéré, j'aurais pas dissous ces structures mentales de l'ego qui me protégeaient et dont j'avais pas conscience qu'elles me protégeaient. Donc voilà. Je voulais
C'est hyper
finir
intéressant.
l'histoire. Là,
Ouais, mais c'est une forme de lâcher prise aussi.
le fait de
D'accepter ce torrent, c'est un peu ce geyser qui revient, et puis du coup de prendre conscience et de lâcher ton ancien toi et de devoir, enfin de vouloir avancer et d'être plus ouvert du coup à ses émotions et tout ça. Donc ça demande d'une manière générale, je pense, un travail sur soi. Ça vient pas forcément juste comme ça et.
Complètement. Toi, qu'est-ce que tu dirais par rapport à toi? Justement, tu en as parlé au début de ta relation de couple, que tu t'as décidé non, le couple, ça sera plus ma priorité. Comment tu le vois aujourd'hui? Tu dis que c'est thérapie qui t'ont beaucoup aidé. Moi, c'était brutal, c'était d'un coup. Mais je sais que pour beaucoup de personnes, et c'est peut-être mieux de le faire un travail consciemment, d'aller voir des thérapeutes et de récupérer petit à petit des parties de soi et de dissoudre petit à petit ces protections-là, c'est la bonne chose à faire aussi. Il n'y a pas de bonne chose à faire, mais il y a plusieurs possibilités. Et donc toi, comment tu le vis ça?
Je navigue encore un petit peu dans le sens où je suis encore en train de me dire que, ok, donc on accepte que le négatif, ça fait partie de la vie. Mais comme tu disais, cette courbe, tu sais, ça me faisait penser à la courbe de santé qu'on a dans le carnet de santé, où en fait, tant qu'on a, voilà, on va naviguer entre un peu le positif, le négatif, il y a des moments-là, mais le but, c'est pas d'aller dans les extrêmes. Là, ce serait pas bon, tu vois. Et donc, je suis en train d'accepter que, ok, dans la vie, il y a les émotions positives, négatives. Donc là, quand je dis ça, c'est dans le sens où ce que les gens peuvent me faire ressentir, c'est normal, il peut y avoir des déceptions, des incompréhensions et tout ça. Je me pose encore la question, est-ce que je les gère mieux, ces émotions, parce qu'elles ne m'atteignent plus comme avant, Ou en fait, est-ce que j'ai un peu fait comme toi et j'ai bloqué et c'est pour ça que ça m'atteint plus, tu vois? Donc je suis encore un peu en train de naviguer entre les deux. Je découvre une nouvelle Hélène qui a été dans l'extrême sensibilité quasiment toute sa vie. Donc pour l'instant, moi j'ai l'impression que c'est encore que j'ai fermé, j'ai cloisonné, alors que ben justement mes émotions, je les réouvre tranquillement. Donc rien que ça, je me dis bah, par rapport au couple, ça me fait encore un peu peur parce que je me dis que mon radar il est encore un peu biaisé. Et mais par contre, là où je pense je change depuis ces derniers mois, c'est dans le sens à me réouvrir à la possibilité de me mettre en couple avec quelqu'un, que de voir qu'il y a du positif et pas que du négatif. Ou que je peux garder mon indépendance et ma liberté tout en étant en couple. Je suis pas obligée de me perdre dans l'autre. Voilà, ça c'est tout ce que j'ai conscientisé ces dernières années. Où moi le couple c'était on ne fait qu'un, on est fusionnel, on essaie tout. C'est bien. Moi j'étais très sur l'amour passionnel et tout flamme, mais en fait c'est épuisant. Ça n'empêche pas. Enfin, j'espère retrouver un petit peu cette flamme dans un couple, mais tout en fait respectant mes besoins et ma forme d'indépendance. Donc voilà, de prendre conscience de tout ça et d'accepter que c'est pas tout blanc ou tout noir et la communication. Enfin, comme tu disais, toi, après surtout quand on est jeune, c'est différent. On n'a peut-être pas tous ces codes et ces clés qu'on a appris en grandissant et tout ça, et que je me rends compte qu'effectivement communiquer, c'est très important. Et par contre, je serais plus sensible aux détails qu'on me renvoie à l'inverse, où j'avais tendance à les masquer, un peu ce qu'on appelle ces red flags, où je me disais non mais enfin c'est pas grave en soi sur le moment ça me gênait pas du tout. Admettons pour donner un exemple tout bête, mais quelqu'un de bordélique, mais genre extrêmement bordélique et pas très organisé ou pas très propre. Sous coup je me dis c'est pas grave, tu vois. Enfin en soi j'ai pas m'empêcher d'être avec quelqu'un parce qu'il est bordélique dans le sens où c'est quelque chose qu'on pourra avoir plus tard. Mon Dieu, bah du moins, mon expérience actuelle m'a montré que non. Au bout d'un moment, après, quand tu habites sous le même toit, tu te retrouves dans la position parce que toi, ça t'embête du coup à faire le ménage, à ranger derrière. Donc le déséquilibre se crée et c'est quelque chose après que tu te rends compte que, je parle de mon expérience, hein, c'est pas une manière générale, la personne, elle peut être aussi bordélique donc dans sa tête. Comment organiser les choses dans sa vie d'une manière générale. Et ça, maintenant, c'est quelque chose, je fais attention. Avant, je pensais que c'était un peu superficiel en me disant, ouais, si j'arrive chez un mec qui m'invite et c'est rangé, je suis contente, tu vois. Et parce que pour moi, ça découle de beaucoup de choses, alors que c'est fou, je me dis que c'est censé être un basique. Mais voilà, donc faire attention un peu à ces détails. Ok, est-ce que la personne, je sais pas, elle va me recontacter ou comment elle me parle, la notion de consentement aussi. Donc voilà, c'est des choses en faisant ce travail sur moi toute seule que j'ai repris un peu mon pouvoir sur moi-même et de comprendre ce que j'ai le droit qu'on me respecte et que je suis pas obligée de voir au rabais les choses. Je parlais avec une amie par exemple où en taquinant elle me dit oh là là le pauvre le prochain et tout. Je lui dis mais tu sais j'ai appris à être bien seule. Du coup si la personne ne m'apporte pas quelque chose en plus, alors je dis pas qu'on est là pour tirer que la couverture à soi, mais c'est dans le sens si on crée pas quelque chose qui voilà va ensemble nous aider à créer quelque chose de plus beau. Je suis très bien actuellement dans ma vie, donc si la personne elle remplit pas juste la base du respect, et ben non, 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 il y a pas de raison. Donc c'est sûr que j'ai l'impression que je deviens peut-être un peu plus exigeante, mais quand je le réfléchis, je me dis mais enfin c'est fou, ce serait se mettre en couple et ne pas respecter certains besoins, tout ça parce que on veut pas finir seul ou non, peut-être que ça arrivera dans quelques temps, j'en sais rien, là ça reste encore frais, mais du coup vraiment ouais comme je dis de reprendre un peu le pouvoir sur soi, de soi, c'est quelque chose qui m'a fait du bien cette période de jachère. Donc
Ouais.
voilà.
Et ça fait écho à ce qu'on disait, le fait d'élever ses standards. Parce
Ouais,
que,
exactement.
et c'est en fait, c'est tout ce travail progressif que tu fais, c'est le travail de développement de soi, des thérapies, de se connaître mieux soi-même, de se respecter, comprendre tes besoins. Tout ça, en fait, ça te permet d'arriver à un état où tu as plus de pouvoir, tu es plus forte, tu as plus de structure, tu as plus de limites. Et donc, en étant dans cette position-là, justement, tu peux le fait que tu te dises ah ouais, pourquoi pas se mettre en couple bientôt, que ça se réouvre, c'est parce que automatiquement, tu es plus forte aujourd'hui, donc
Ouais.
tu peux mieux gérer. Tu disais, je
Ouais.
sais pas si comment je réagirais, tout ça, mais il faut en faire l'expérience aussi. Tu peux, de toute façon, tu peux rien savoir avant d'en faire l'expérience, je pense. Tu peux
Ouais, t'as
toujours,
raison.
après,
Ouais.
tu te sens bien et fais confiance à ton intuition parce que ton corps et ton mental, ils savent aujourd'hui à quel qu'est-ce que tu peux gérer, qu'est-ce que tu peux accepter. Et...
Ouais. Ouais, je pense que tu as raison, effectivement, c'est de faire l'expérience. Il y a toujours, tu vois, on en parle, là, je sens que j'ai une petite boule à l'estomac. J'ai toujours cette impression de me dire, si je me lance dans une histoire, à quel point ça peut m'affecter. Donc, c'est à quel point, finalement, c'est de changer son regard et tout ce que ça peut t'apporter. Et tu vois, comme je disais souvent, enfin, du coup, moi, je voyais un couple, c'était, on faisait qu'un. Mais là, moi, ce que j'ai bien conscience, c'est qu'on est un, et ça fait une troisième entité, si on peut dire ça comme ça. Et il faut pas que non plus, l'autre se perde dans la relation. Tu vois, c'est souvent comme ça qu'on arrive à se couper de la famille, des amis, qu'on fait plus d'activités sans que l'autre soit là. C'est terrible et c'est pour ça qu'aussi quand il y a des séparations ou malheureusement un décès, c'est encore une autre chose, c'est encore plus compliqué. Mais une séparation, on va dire, ça peut être difficile parce qu'on a calqué notre vie sur l'autre et c'est ce qui fait qu'après on se retrouve complètement démunis. Et ça, voilà, j'ai envie de garder ce côté-là et effectivement de faire l'expérience. Je pense que c'est comme ça qu'aussi je vais voir ce qui a changé et puis ça va travailler au fur et à mesure. Ouais.
Ouais, en fait, c'est se devenir complet. T'es une complète en face de quelqu'un d'autre qui est complet. Et comme ça crée vraiment, comme tu disais, la troisième entité. J'utilise ça beaucoup aussi. Et après, peu importe si vous êtes déjà en couple et que vous n'êtes pas complet, que vous êtes un peu codépendant, qu'il y ait des dynamiques comme ça, vous pouvez devenir complet au sein du couple. Des fois, il y a besoin d'une séparation parce que on n'y arrive pas. Donc on se sépare, on devient un peu plus complet, on rencontre quelqu'un d'autre qui va nous montrer qu'on n'est pas très complet ici, et donc on va revenir un peu plus complet. Donc les séparations, en fait, c'est toujours positif, je pense. Et pour moi, tout est positif quand on prend du recul. Et quand on regarde sa vie de manière globale, du début à la fin, bah on va voir que, ah oui, cette séparation, au final, c'était positif parce que ça m'a
Ouais.
appris ça, puis après, j'ai rencontré ces personnes-là, et puis voilà. Donc, voilà, je pense qu'on peut finir avec cette touche d'espoir sur le fait que
Oui, clairement.
tout se résout de la manière qu'il faut pour nous, pour qu'on puisse vivre sa vie et avancer.
Pour clôturer, on peut justement inviter nos auditeurs à regarder et écouter le podcast qu'on a sorti sur les relations, sur après la famille difficile, en fait, comment construire des. On n'a pas encore trouvé le titre, mais du coup, c'est voilà, comment construire des relations saines, ce qui fait écho du coup à cet épisode. Et écouter tous les autres. Dans tous les cas, on vous accompagne et on vous donne des clés pour aller chercher au fond de vous et mettre de la conscience sur différentes parties de vous. Donc on espère que cet épisode vous a plu et qu'on vous montre que justement, à travers des périodes difficiles, comme tu viens de conclure, on peut retrouver de la lumière, de l'espoir et avancer avec confiance.
Ouais, merci Hélène pour aujourd'hui
Merci
et à
Thomas.
bientôt.
À la semaine prochaine. Ciao.